Lutter.
Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Vous nous suivez à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Nous sommes vendredi et vous le savez, en deuxième partie d'émission, ce sera la libre antenne dans 30 minutes. Vos coups de cœur, vos coups de gueule sur l'actualité de la semaine. Vous êtes encore nombreux à nous contacter de Kinshasa pour témoigner après les pluies diluviennes qui se sont abattues il y a tout juste une semaine sur la capitale congolaise. On nous appelle également de Guinée où ces dernières semaines, plusieurs féminicides ont soulevé une vague d'indignation, des réactions sur la situation sécuritaire en Haïti, sur la crise sociale qui secoue en ce moment l'enseignement public en Côte d'Ivoire. En tout cas, hier, les syndicats ont voté à la fin de la grève. Les sujets ne manquent pas. Comme tous les vendredis, vous êtes les bienvenus. On vous attend. Rejoignez-nous pour lancer le débat. 33 9 693 693 70 et vos commentaires également, comme tous les jours, sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. Ce sont vos questions que vous posez directement aux journalistes de RFI. On va commencer ce matin avec Smith. Il est en République démocratique du Congo. Bonjour Smith.
Bonjour Juan, bonjour à tous les membres de la radio du monde.
Et merci de nous écouter à Lubumbashi. Vous avez des questions concernant votre pays avec le retour annoncé de l'ancien président Joseph Kabila.
Oui Juan. En RDC, l'ancien président Joseph Kabila a déclaré qu'il s'apprête à rentrer au pays pour contribuer à la recherche d'une solution à la crise de la RDC.
Oui.
Sur ce, j'ai deux petites interrogations. Pourquoi choisit-il de faire ses retours par la partie orientale du pays?
Par la partie est, effectivement. Bonne question que vous posez. Patient Ligodi est à mes côtés, il va vous répondre. Bonjour Patient.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI, ça fait maintenant un an que Joseph Kabila vit à l'étranger et il a effectivement annoncé par une déclaration écrite qu'il voulait rentrer sans délai au pays compte tenu de la dégradation du contexte sécuritaire. Alors il n'a pas dit quand est-ce qu'il rentrerait, hein. Aucune date n'a été annoncée. En revanche, et je comprends la question de Smith, il affirme vouloir rentrer par la partie orientale, par l'Est. Pourquoi par l'Est et pas par l'Ouest?
Alors, il faut d'abord expliquer que quand il a quitté le pays, quand vous discutez avec les services de renseignement, particulièrement les renseignements militaires, ils disent qu'il a quitté sans annoncer. Donc, il est parti. Alors, certains de ses proches expliquent qu'il est parti parce qu'il craignait pour sa sécurité et qu'il se considère comme un exilé. Alors, on voit mal comment...
D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, dans le document qu'il a publié, après 6 ans de silence absolu et une année d'exil.
Alors, ce qu'il faut comprendre, que quand quelqu'un se considère comme un exilé, c'est le retour doit être plutôt négocié, il faut des conditions pour son retour. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi de considérer que plusieurs fois, des membres de sa propre famille biologique ont eu des difficultés à voyager, particulièrement avec la Direction Générale des Migrations, plus de contrôle que d'habitude. Et troisièmement, on a eu également sa famille politique avec les responsables de son parti, le PPRD, qui ont eu à être plusieurs fois interpellés par la justice militaire pour être auditionné, le renseignement militaire sur les propos tenus, sur les déplacements de Joseph Kabila, sur qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer.
Donc ce serait plus facile pour lui de revenir au pays par l'Est. En même temps, c'est tout un symbole de revenir par l'Est.
Mais oui, il rentre par l'Est parce que pour lui, l'Est symbolise le bilan de Félix Tshisekedi. Il veut toucher la plaie là où ça fait mal. L'Est saigne, l'Est du pays cherche la paix et il veut se proposer comme celui qui viendra apporter cette paix-là. Il faut également dire que les relations se sont quand même améliorées avec Paul Kagame, hein, parce qu'il faut dire que il n'a plus d'animosité qui existait avant la fin de son mandat entre lui et Paul Kagame. Il a besoin de toute cette sécurité au niveau contextuel, au niveau de la sous-région pour pouvoir se mouvoir. On sait également que certains de ses émissions se sont rendus à Kigali ces derniers mois et il n'y a pas vraiment d'animosité entre les deux hommes. Donc, alors quand on compare avec la partie ouest du pays, Kinshasa considère les pays de l'ouest du pays comme étant des pays alliés. On parle notamment de l'Angola, on parle du Congo au Brazzaville, alors que l'est du pays, on a le Rwanda, on a l'Ouganda particulièrement, qui sont considérés par beaucoup de ces autorités congolaises comme étant des pays entre guillemets hostiles.
Alors j'ai coupé la parole à Smith, mais il a une deuxième question à nous poser. Allez-y, on vous écoute.
Les accusations du président d'ici.
Alors, excusez-moi, on vous entend très très mal, le réseau téléphone s'est considérablement dégradé. Le fait qu'il passe par l'Est, est-ce que ça confirme les accusations du président Tshisekedi qu'il y a un rapprochement effectivement entre l'ancien président Joseph Kabila et le groupe armé AFC M23 ? Bonne question là aussi.
C'est une bonne question, parce qu'il faut, dire que du côté de l'AFC M23, moins de communication autour des rapports qui existeraient entre Joseph Kabila et l'AFC M23. Mais du côté de Joseph Kabila, beaucoup de ses proches expliquent qu'il existe bel et bien un rapport entre les dirigeants de l'AFC M23 et Joseph Kabila, et qu'il y aurait même des appels téléphoniques avec certains des dirigeants de l'AFC M23. Quand on discute, on va un peu plus loin. Quelqu'un de l'entourage de Joseph Kabila a même dit que Corneille Nangaa appelait pour avoir des conseils.
Merci en tout cas pour vos explications, Patient Ligaudi. Je salue Smith, avec qui on a eu quelques problèmes de réseau téléphonique à Lubumbashi, mais il pourra à tout moment, bien évidemment, réécouter vos explications sur l'application RFI Pure Radio. À très vite, Patient Ligaudi.
À très bientôt.
10h17 à Paris, on repasse au standard avec plusieurs questions sur la guerre en Ukraine. Bonjour Christophe.
Bonjour Juan Gomez.
Au Cameroun, à Yaoundé, on vous écoute.
Oui. J'ai entendu sur RFI que deux soldats chinois avaient été capturés en Ukraine. À ce sujet, j'ai deux questions, Juan. Que sait-on de la présence chinoise aux côtés de l'armée russe? Et la deuxième, comment réagit Pékin après ces arrestations?
Deux combattants chinois, effectivement, capturés par l'armée ukrainienne dans la région du Donbass, à l'est du pays. Bonjour Cléa Broderst.
Bonjour à tous.
Correspondante permanente de RFI à Pékin. Que sait-on de la présence chinoise aux côtés des forces russes?
Alors, les deux hommes auraient été recrutés sur Douyin, donc c'est la version chinoise de TikTok. Et en fait, on y trouve beaucoup de vidéos qui promettaient de généreuses primes à l'engagement, qui allaient jusqu'à 200 000 yuan, soit à peu près 24 000 euros, et des salaires mensuels confortables pour ceux qui accepteraient de rejoindre les rangs russes. Et donc, selon Volodymyr Zelensky, il serait aujourd'hui plus de 150 Chinois à combattre pour Moscou. Alors, il n'y a à ce jour aucune preuve que ces volontaires soient envoyés par le gouvernement chinois. Il n'est toutefois pas surprenant qu'ils y soient, parce qu'en fait, on voit depuis longtemps les combattants chinois des deux camps en Ukraine qui publient des vidéos de leurs exploits sur les réseaux sociaux depuis le début de la guerre.
Alors justement, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces combattants? Qui sont-ils?
Alors justement, ce sont des mercenaires pour la plupart, attirés par l'argent, les sensations fortes ou parfois même le nationalisme. Comme un jeune homme de 23 ans qui gagnait à peine 3000 yuan par mois comme pompier, eh bien il a été recruté via une vidéo en ligne. Il s'est envolé pour Moscou en 2023 et en fait il espérait multiplier ses revenus par 5. Et un autre affirmait vouloir vivre la guerre comme dans les films patriotiques chinois. Il a choisi le camp russe tout simplement parce qu'il était plus facile d'y obtenir un visa. Mais tous les volontaires chinois ne sont pas du même côté. Certains se battent aussi pour l'Ukraine. C'est le cas de Peng Shanliang, qui avait fini par rejoindre la Légion étrangère ukrainienne en 2024. Il est mort quelques mois plus tard et avant sa mort, il avait publié une vidéo où il brandissait un drapeau taïwanais.
La réaction de Pékin, elle est sans surprise, Cléa Broderst. Il rejette évidemment les accusations du président Zelensky.
Exactement. Pékin dément toute implication de l'État et qualifie même les déclarations de Zelensky d'irresponsables et affirme que la Chine n'est en rien impliquée dans le conflit. Le ministère des Affaires étrangères appelle même ses ressortissants à éviter les zones de guerre. Mais cette posture est fragile car même si Pékin ne fournit pas d'armes, elle continue de vendre à la Russie des composants à double usage et donc elle soutient quelque part aussi l'économie russe par des achats d'énergie. Et en plus, elle diffuse une rhétorique accusant l'OTAN et l'Ukraine d'avoir provoqué la guerre.
Je précise que les composants à double usage, ce sont ces produits, ces équipements destinés à des applications civiles et qui sont susceptibles d'être utilisés pour produire des drones, des missiles, des pièces d'artillerie. Reste avec nous encore quelques instants, Cléa Broderst. Philippe nous rejoint, il est à N'Djamena. Bonjour.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à l'équipe dynamique qui vous accompagne.
Merci de vos encouragements. Quelles sont vos questions?
Alors Juan, la Chine veut se positionner en tant que médiatrice entre la Russie et l'Ukraine. Mais est-ce que le fait qu'il y a des combattants chinois en Ukraine peuvent compromettre ce projet ?
Ah, bonne question, Claire Broders. On en parlait avec vous d'ailleurs. Hein. En début de semaine, on répondait à une question d'un auditeur après les propos du ministre chinois des Affaires étrangères qui, la semaine dernière à Moscou, se disait prêt à jouer un rôle constructif pour mettre fin à la guerre. La présence de citoyens chinois en Ukraine, ça remet en cause finalement ce projet, cette option ?
Alors oui, car en diplomatie, tout est affaire de perception. Donc, même si la Chine n'est pas directement impliquée, on le disait, la présence de ses ressortissants dans les rangs russes nuit à son image de neutralité. C'est-à-dire que ça rend plus difficile la confiance de l'Ukraine et des alliés occidentaux dans son impartialité. Et si les exportations technologiques ou les liens économiques de la Chine contribuent déjà à l'effort de guerre de la Russie, la présence de ressortissants chinois sur le champ de bataille pourrait être considérée comme faisant partie d'un schéma plus large, intentionnel ou non, qui favoriserait Moscou.
Et ça perturbe le discours officiel.
Ça complique d'autant plus les ambitions de Pékin, puisque la Chine a soigneusement élaboré depuis le début un discours selon lequel elle est une puissance mondiale stabilisatrice, offrant des alternatives à la diplomatie menée par l'Occident. Donc elle pourrait devoir réagir aujourd'hui en poursuivant par exemple les recruteurs sur Douyin ou en restreignant davantage les voyages vers les zones de guerre. Et en fait, sa manière de gérer cette affaire influencera sa capacité à peser sur la scène diplomatique.
Philippe, a-t-on répondu à votre question ?
Parfait,
bon, bonne journée à N'Djamena et merci à Christophe qui nous appelait de Yaoundé. Claire Broders, bonne fin d'après-midi à Pékin, où vous êtes la correspondante permanente de RFI. On nous salue sur la chaîne YouTube de Radio France Internationale, Samba, qui nous écoute depuis Tokomaji en Mauritanie, dans le sud du pays. Bonjour à vous, Samba. 10h22 à Paris. Plusieurs questions au standard de RFI. Après la volte-face de Donald Trump concernant les droits de douane américains. Bonjour, Mokhtar.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
À Dakar, au Sénégal, nous vous écoutons.
Alors, Donald Trump a suspendu toutes les augmentations des droits de douane, sauf celle de la Chine. Il les a même au contraire augmentées. J'ai une seule question sur ce sujet. Pourquoi cet acharnement seulement à l'encontre de la Chine ?
Ouais, c'est vrai que non seulement Donald Trump a maintenu les droits de douane supplémentaires aux produits importés de Chine, mais il les a augmentés, passant de 104 à 125%. Bonjour Anne-Sophie Altif.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste du cabinet de conseil économique BDO. Expliquez-nous pourquoi la Chine est-elle dans le collimateur de Donald Trump ?
La Chine est dans son collimateur parce que c'est un partenaire commercial avec lequel il a l'un des plus grands déficits. Et comme vous le savez, il déteste avoir des déficits, donc il veut les faire payer. L'autre élément, c'est bien sûr les raisons géopolitiques, puisqu'il sait très bien qu'il y a vraiment une course à la puissance. Et derrière, il y a bien évidemment des implications sur Taïwan, sur des visions territoriales qui sont importantes. Donc vraiment, la Chine, c'est vraiment pas seulement le commerce, c'est vraiment une vision globale de course à la puissance où Donald Trump veut vraiment être de moins en moins dépendant. Or, les États-Unis, l'économie américaine est très dépendante de l'économie chinoise, donc bien évidemment à cause de ses importations. Et donc c'est pour ça que Donald Trump, il l'avait dit pendant sa campagne présidentielle, cible en premier lieu la Chine.
Ouais, les États-Unis dépendent plus du marché chinois que la Chine ne dépend du marché américain, si je comprends votre analyse.
Oui, tout à fait, notamment pour les biens manufacturiers, les biens bas et surtout moyenne gamme. Par contre, en effet, pour les services, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, pour les biens, c'est vrai.
Christ nous rejoint, il est à Brazzaville, au Congo. Bonjour Christ.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons avec Anne-Sophie Alsif.
Et alors, j'ai lu sur RFI les droits de douane américains sur les produits chinois qui sont maintenus à 125%. Alors, la Chine a-t-elle les capacités de résister face à ces mesures ? Risque-t-elle d'aller vers une rupture commerciale ?
En tout cas, la Chine promet de se battre jusqu'au bout. Et ce matin, Anne-Sophie Alsif, on l'apprend à l'instant, la Chine porte à 125% ses surtaxes sur les produits américains.
Là, c'est perdant-perdant, puisqu'avec de tels niveaux de taxes, je dirais qu'il n'y a quasiment plus de commerce international. Tout de même pas, mais en tout cas, la baisse et l'impact sur le commerce international est tel que là, on est vraiment et on bascule dans une vraie crise de la croissance et une crise mondiale. Donc là, on voit vraiment qu'on est pour l'instant dans une escalade. Chacun répond en augmentant et personne ne perdent la face. Bien évidemment que là, on est perdant-perdant pour les deux. La Chine ne pourra plus écouler ses produits, devra se tourner vers d'autres marchés, notamment l'Europe. Mais bon, l'Europe ne va pas se laisser faire comme ça. Donc, ça sera quand même très compliqué pour elle. Et puis, bien sûr, les États-Unis, ça va être très inflationniste puisque le consommateur américain achète principalement des produits chinois.
Donc
économiquement, c'est vraiment du perdant-perdant. Et là, on est vraiment sur une escalade qui est beaucoup plus de leur politique qu'économique.
Donc, il va falloir absolument négocier, trouver un accord.
Oui, mais là, on n'est pas dans trouver un accord. Là, je pense qu'on est vraiment dans une façade politique de ne pas perdre la face. Vous avez deux chefs d'État qui sont vraiment dans l'escalade et personne ne va être le premier à céder. Donc, on est beaucoup plus sur ça, hein, sur de l'affichage, sur de l'affichage de puissance, sur de la politique. Il n'y a aucune rationalité économique à ce qui se passe.
Donc, on peut s'attendre à une réaction dans quelques heures lorsque Donald Trump va se réveiller, puisqu'il est 4h26 en ce moment à Washington. Il se réveille, il apprend que la Chine porte à 125% ses surtaxes. Oui. Il fera de la surenchère dans les prochaines heures.
Sûrement, enfin, je ne sais pas ce qu'il fera.
Bien sûr, personne n'est dans la tête de Donald Trump.
En tout cas, on n'est plus du tout dans la cohérence économique, donc je pense qu'il faut arrêter d'aller sur ce plan. Et là, on est vraiment dans une façade et de savoir qui sera le premier à lâcher.
Ouais. Christ, je vous ai coupé la parole. Je crois que vous avez une autre question.
Est-ce que, autant pour moi et un instant.
Bon, vous avez un petit souci, Christ. Bon, on va prendre Jean. Jean à Ouagadougou, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes au Burkina Faso, on vous écoute.
Alors, merci et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Ma question est la suivante. Pourquoi l'OMC ne s'implique-t-elle pas dans cette guerre commerciale déclenchée par les États-Unis ?
L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, on avait oublié, Anne-Sophie Alsif, qu'elle existait. Elle est muette, là, depuis 15 jours.
Tout à fait. Le problème, c'est que, bien évidemment, qu'il y a des règles du commerce international, mais si les États-Unis et la Chine ne les respectent pas, l'OMC n'a pas de pouvoir coercitif. Donc, bien évidemment qu'il y a des règles, mais là, que ce soit côté chinois ou côté américain, plus personne ne les respecte. En tout cas, Donald Trump n'est pas du tout dans le multilatéralisme, il ne reconnaît aucune légitimité à cette organisation. Donc, elle peut s'insurger, elle peut condamner, mais voilà, à part ça...
Mais est-ce qu'elle condamne ? Excusez-moi, est-ce qu'elle a condamné ? Jusqu'à
non,
présent.
Même pas. C'est
même
vrai
pas,
qu'on donc... depuis le début de cette guerre commerciale, on l'entend très peu. Alors, bien sûr, elle condamne sur le fond, puisque bien évidemment, ça entrave toutes les règles, etc. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Mais c'est vrai qu'à part ça, on voit qu'on n'est plus du tout dans le cadre de ces organisations multilatérales. Et donc, même si elle condamne, il n'y a absolument aucun impact.
Ouais, l'OMC, qui est censée être le gendarme du commerce international, elle a tout de même été saisie hier par la Chine. Et on a vu au début du mois que le Canada avait même porté plainte également contre les États-Unis.
Non, elle existe toujours, hein, vous pouvez toujours porter plainte, etc. Ça, il n'y a pas de problème, et c'est toujours normalement le gendarme donc, du monde, et c'est une organisation qui est très importante. Le grand problème, c'est quoi ces moyens de coercition ? C'est ça la difficulté. La Chine porte plainte, mais eux subventionnent en effet leur économie depuis des années. Là, les États-Unis respectent en effet plus rien. Donc, c'est vraiment très compliqué. Elle va condamner, etc. Mais dans les faits, on voit qu'on n'est pas du tout dans des moyens qui sont suffisants pour vraiment avoir un rapport de force avec Donald Trump.
Donc, et rien ne dit que...
Il condamne, mais rien.
Ouais, rien ne dit que Donald Trump ne décide pas un beau jour, très prochainement, de retirer les États-Unis de l'OMC. C'est plausible.
C'était possible.
Ouais. Merci Anne-Sophie Alsif d'avoir été en direct sur RFI. Je rappelle que vous êtes chef économiste au cabinet BDO. Il est 9h29 au Gabon à Libreville, 10h29 ici à Paris. N'oubliez pas la libre antenne évidemment dans une dizaine de minutes maintenant. Vous allez commenter l'actualité de votre choix. Je salue un auditeur de Côte d'Ivoire, Ibrahim, qui nous dit sur la chaîne YouTube qu'il nous dit bonjour. Et il nous demande depuis Lakota ce qu'ont décidé les enseignants. Ont-ils décidé de lever la grève ? Eh bien oui, Ibrahim, je vous réponds en direct. Et sachez que plusieurs auditeurs de Côte d'Ivoire souhaitent nous interpeller justement sur la levée, la suspension de la grève des enseignants dans le secteur public. La décision a été prise hier, mais le bras de fer se poursuit entre les syndicats et le gouvernement, puisque les enseignants réclament toujours une prime. On en parle évidemment dans la libre antenne. Vous nous appelez, le standard reste ouvert. 33 9 693 693 70. À suivre, la dernière édition d'Afrique Matin.